Vous êtes sur RTL.
Et c'est parti pour 2 heures d'infos avec vous Thomas Soto, RTL Soir, c'est parti.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. À la une ce soir, un nuage de plus au-dessus du 5 décembre, à 2 semaines pile de la journée de grève contre la réforme des retraites. La CFDT Cheminots dépose à son tour un préavis de grève reconductible à la SNCF. Chez EDF également, on sait qu'il y aura grève. À la RATP, appel à la grève illimitée aussi chez les chauffeurs routiers et chez les personnels au sol d'Air France. Cette réforme, il faut la faire, a répété encore tout à l'heure le Premier ministre Édouard Philippe, le Premier ministre qui cependant dit vouloir consulter encore les partenaires sociaux. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Une semaine sans électricité en plein mois de novembre. Une semaine de cauchemar pour 1000 habitants de la Drôme, toujours privés de courant ce soir après les chutes de neige. Vous avez alerté RTL, nous sommes retournés sur place. Coup de théâtre dans l'affaire Estelle Mouzin. Michel Fourniret n'a plus d'alibi pour le jour de la disparition en janvier 2003. Son ex-femme Monique Olivier reconnaît avoir menti pour lui. 3 mois de prison avec sursis requis contre le premier policier jugé pour violence envers les gilets jaunes. Il affirme avoir agi en légitime défense. À suivre également, pas 2 mois sans alcool en janvier. Apparemment, l'Élysée n'a pas envie de mettre de l'eau dans son vin.
Et ça met en colère pas mal de médecins et d'addictologues qui accusent le gouvernement de reculade, d'avoir cédé au lobby du vin. À 18h15, justement, le professeur Reynaud sera avec nous pour en parler. Pour lui poser vos questions, vous nous appelez dès à présent au 3210.
Emmanuel Macron sur ses terres à Amiens pour 2 jours. Le président a échangé avec des étudiants qui dénoncent la précarité. Et puis la France, déjà éliminée de la Coupe Davis New Look, battue par la Serbie de Djokovic. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en baisse de 0,22% à 5881 points. Notez que dès ce matin, pour sa première cotation, le cours de l'action FDJ a bondi de 15%. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 3, le 9, le 12, le 14 et le 15.
La météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Encore de la pluie pour demain, de la pluie dans l'ouest, de la pluie dans le sud.
C'est reparti, c'est un nouvel épisode de méditerranéen qui a débuté cet après-midi, surtout à partir de demain que les pluies vont s'intensifier près de la Méditerranée. À partir de demain soir, forte pluie à caractère orageux, forte rafale de vent, et cet épisode va durer jusqu'à dimanche matin, donc les cumuls seront très importants. Et puis on a en plus une perturbation qui va arriver par la côte atlantique, donc retour de la pluie demain après-midi sur toute la façade atlantique avec là aussi des vents soutenus. Et ailleurs, ce sera plus calme avec du soleil entre le nord et le nord-est et des températures qui repartent à la hausse. 2 degrés demain matin à Nancy, 3 à Lille, 5 à Paris, 6 à 17 degrés dans l'après-midi, 6 à Strasbourg, 11 à Brest, Paris et Bordeaux, jusqu'à 17 à Ajaccio.
Merci Patricia.
Thomas Soto, RTL Soir.
Si vous étiez à l'écoute d'RTL à la mi-journée, vous avez peut-être entendu l'appel de cet auditeur de la Drôme une semaine après les fortes chutes de neige sur le département.
Si vous voulez, on n'est pas habitué à vivre sans chauffage, sans électricité. On a l'impression que rien ne bouge, quoi. Hier soir, on a été obligé d'aller coucher à l'hôtel parce que chez nous, il fait 8 degrés, puis il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien pour se laver, puis pour avoir l'électricité, pour recharger les téléphones portables et puis pour avoir chaud. Donc, je commence à désespérer. Je voulais témoigner pour qu'on ne nous oublie pas.
Un auditeur donc qui a appelé le 3210 à la mi-journée. Frédéric Perruche, vous êtes le correspondant d'RTL en Rhône-Alpes. Après cet appel, vous êtes retourné sur place à Perrin dans la Drôme et effectivement, vous avez pu rencontrer ces naufragés de l'électricité.
Oui, dans ce hameau de Perrin, un retraité octogénaire, malgré le froid, a décidé de rester chez lui, très entouré par des assistantes sociales et une infirmière qui lui rendent visite plusieurs fois par jour. Jean-Pierre, lui, passe désormais ses nuits à l'hôtel. Après 8 jours sans courant, dormir dans sa maison, ce n'est plus possible.
On vit dans le noir parce que malheureusement on a des volets électriques. On vit au ralenti, on achète des bougies. Dans les commerces, il n'y a plus de bougies pour s'éclairer, donc on achète des bougies parfumées, c'est sympa. Pas d'électricité, pas de courant, rien du tout. Dans la maison, il fait 9.
Donc vous restez très couvert.
Ben voilà, vous voyez, comme ça, on coupe le bois, ça nous réchauffe.
Dans la Drôme, des centaines d'équipes d'Enedis travaillent pourtant sans relâche, mais la masse de neige tombée, le brouillard, les routes coupées par les chutes d'arbres ont rendu leur tâche très compliquée. Bernard Dalle, responsable de la cellule de crise.
On a fait le constat que sur une journée, on avait eu autant de pannes que dans une année, des centaines de pannes. Pour nous, effectivement, c'est hors norme, c'est un événement vraiment exceptionnel.
Ce soir, dans la Drôme, 1 millier de foyers devraient rester sans électricité. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait plus du tout demain soir.
Le reportage RTL de Frédéric Perruche à Perrin, dans la Drôme.
Nous sommes à 2 semaines exactement maintenant de la grande grève contre la réforme des retraites. Ce sera le jeudi 5 décembre et l'ambiance devient électrique.
Oui, car désormais la CFDT Cheminots rejoint le mouvement avec les 3 autres syndicats représentatifs à la SNCF, CGT, UNSA et Sudrail. La CFDT dans son ensemble n'appelle pas à la grève pour l'instant, ce ne sont que les cheminots. Mais on sent tout de même un changement d'atmosphère, Anaïs Bouissou.
Oui, pour le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, le gouvernement doit trancher maintenant, clarifier sa position. L'ambiance se tend, explique-t-il, le pays est, je cite, au bord de l'hystérisation et le gouvernement reste ambigu.
Clairement, on en a assez de cette cacophonie gouvernementale où on ne sait plus qui pense quoi. Et le gouvernement, il y a 18 mois maintenant, lancé une réforme systémique des retraites. Et aujourd'hui, on a l'impression, avec des déclarations des uns et des autres, dans tous les sens, parfois largement contradictoires, qu'ils voudraient en fait faire une réforme contre les régimes spéciaux et une réforme paramétrique, c'est-à-dire en demandant aux gens de travailler plus longtemps.
Laurent Berger insiste, en soi, il n'est pas contre une réforme des retraites, mais à condition qu'elle soit juste et qu'elle réduise les inégalités. Travailler plus longtemps, c'est non. Mettre en place un âge pivot, hors de question. Remettre le régime à l'équilibre avant 2025, inenvisageable. Et si au niveau national, la CFDT n'appellera pas à la grève le 5 décembre, contrairement à sa fédération cheminot, Laurent Berger n'a pas exclu une mobilisation plus tard, après le 5 décembre, pour s'opposer à la réforme des retraites.
Anaïs Bouissou du service économie d'RTL. La grève se renforce aussi chez EDF. 3 des 4 grands syndicats rejoignent le mouvement. La CGT prévoit même des coupures de courant, notamment dans certains bâtiments publics. Crispation donc du côté des syndicats, mais aussi dans l'exécutif. Agnès Buzyn dénonce des revendications très corporatistes et Sibeth Ndiaye accuse la CGT de ne pas jouer le jeu de la démocratie sociale.
C'est tendu aussi chez les étudiants et Emmanuel Macron a pu le vérifier cet après-midi chez lui à Amiens.
Le chef de l'État a entamé aujourd'hui une visite de 2 jours dans sa ville natale. Il verra demain les ex-Whirlpool dont l'usine a fermé l'an dernier. Mais aujourd'hui, il avait rendez-vous sur le campus du nouveau pôle universitaire de la Citadelle. Vincent Derosier, vous suivez ce déplacement pour RTL. Les échanges sont plutôt calmes, mais on sent un vrai malaise.
Oui, Emmanuel Macron a interrogé des dizaines d'étudiants sur leur filière et leurs projets pour l'avenir.
Depuis combien de temps ? Et ça se passe bien ? Vous voulez faire quoi ?
Mais très vite, certains demandent des comptes et se plaignent de leur quotidien.
Après, moi je travaille, j'ai la bourse qui ne me suffit pas. Et
vous avez une bourse de quel niveau ?
Je suis à l'échelon 1.
Et vos parents vous aident ?
Comme ils peuvent, ouais. C'est vrai que c'est pas facile, mais moi j'aimerais bien pouvoir faire mes études en pensant comme mes études.
Les bourses et le budget étudiant ont été augmentés, répond le président sans vraiment convaincre. Les témoignages, eux, se succèdent. Bourses payées trop tard, dépenses auxquelles les parents ne peuvent pas faire face ou difficultés financières des étudiants qui font des thèses, les doctorants.
On parle de gens qui n'ont rien à manger, donc on leur dit bah, « ça sera l'année prochaine que vous mangerez », mais c'est tous les jours qu'on mange, nous.
Mais en fait, c'est le premier problème, c'est le rythme de paiement, c'est ça,
bah, entre autres, être payé au-dessus du SMIC, ça serait quand même la moindre des choses. 114 centimes au-dessus du SMIC, vous découvrez le problème.
Non, mais là, sur le paiement, ça dépend.
Le chef de l'État qui, ce soir, dans un discours à la jeunesse, tentera de montrer que les étudiants ne sont pas les oubliés du quinquennat.
Vincent Derosier à Amiens pour RTL.
Et c'est dans cette ambiance que se tient aujourd'hui le premier procès d'un policier jugé pour violence envers les Gilets jaunes.
Ce CRS comparé pour avoir lancé un pavé vers les manifestants lors de la mobilisation du 1er mai, c'était dans le 13e arrondissement de Paris. Le parquet a requis 3 mois de prison avec sursis. Alice Moreno, vous suivez l'audience pour RTL. Le policier s'est longuement expliqué à la barre. Il plaide non coupable, il évoque un geste de défense.
Oui, il dit avoir agi par réflexe après qu'un de ses équipiers a été percuté par un pavé. Je n'avais aucun autre moyen de désencerclement, explique le CRS. Je devais éloigner la foule. Il évoque la pluie de projectiles que ses collègues et lui ont essuyé ce jour-là et martèle que le pavé qu'il a lancé, lui, n'a fait aucune victime. Je l'ai jeté dans une zone neutre, promet le policier. Il n'y avait personne à cet endroit. Effectivement, personne sur le banc des parties civiles. Aujourd'hui, le seul blessé dans la salle, c'est le capitaine du CRS incriminé. Ce 1er mai, il s'est effondré, percuté au visage par un projectile jeté par les manifestants. « Je suis venu soutenir ce garçon », assume le capitaine, car la maison CRS est sous le choc des blessures. Ce jour-là, c'était un geste de défense. Il loue le travail de son subordonné, médaillé de bronze, d'acte de courage. Mais la procureure coupe court. Ce jet de pavé n'était pas nécessaire, aurait tout à fait pu retomber sur un manifestant. À l'issue de l'audience, les juges semblent anticiper les réactions à leur décision future. Une décision difficile, disent-ils, car, quelle qu'elle soit, il y aura de nombreux mécontents côté forces de l'ordre ou côté manifestants.
Alice Moreno, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre. On fait une petite pause et dans un instant, Michel Fournier est lâché par sa femme. Il n'a désormais plus d'alibi pour la disparition d'Estelle Mouzin.
RTL Soir, 18h09.
Thomas Sauto, RTL Soir.
RTL Soir, 18h11, nous retrouvons Thomas Soto et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Avec un sacré rebondissement dans l'affaire Estelle Mouzin, puisque depuis aujourd'hui, Michel Fourniret, Isabelle, n'a plus d'alibi.
Oui, le tueur en série a toujours raconté qu'il était en Belgique le soir du 9 janvier 2003. Un coup de fil passé à son fils en témoignait, mais son ex-femme Monique Olivier a parlé aujourd'hui et pour la première fois, elle déclare, elle est catégorique, qu'elle a menti pour le dédouaner. C'est ce qu'explique son avocat, maître Richard Delgenès.
Monique Olivier a indiqué à la juge d'instruction qu'elle avait bien passé un appel au fils de Michel Fourniret le 9 janvier 2003 à la demande de Michel Fourniret, ce qui signifie que Michel Fourniret n'était pas à Sarcustine en Belgique le jour de la disparition d'Estelle Mouzin.
Et alors là, on se tourne vers vous, Olivier Bois, on a besoin de vos lumières, bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Eh bien, Michel Fourniret va être convoqué devant cette juge pour être confronté aux déclarations de Monique Olivier. Son ex-femme qui affirme donc, vous l'avez dit pour la première fois, qu'il n'était pas en Belgique le soir de la disparition. Est-ce que ça peut faire évoluer Fourniret? C'est tout l'enjeu hein, pour un homme qui est un manipulateur, qui n'est pas impressionné par les auditions, un homme que cela amuse même de jouer au chat et à la souris avec les enquêteurs. Par ailleurs, même si les déclarations de Monique Olivier sont importantes, ça n'est que sa parole, la parole d'une femme qui a été sa complice, qui arrive en plus 16 ans après les faits. Elle a pourtant eu avant cela beaucoup d'occasions de dire la vérité. C'est donc un témoignage forcément fragile. Dans cette affaire, on en revient toujours au même point. C'est Michel Fourniret qui semble détenir la clé. En l'absence de preuves matérielles irréfutables, lui seul peut décider un jour d'avouer ou pas. La juge d'instruction qui a repris l'enquête depuis le mois de septembre connaît parfaitement Fourniret. Elle l'a déjà fait avouer dans d'autres affaires anciennes. On verra si dans cette affaire-là aussi, elle peut faire parler l'ogre des Ardennes.
Pardon, allez-y.
Explication RTL, signé Olivier Bois.
Je prenais la parole juste pour vous signaler un documentaire inédit sur Michel Fourniret, sur cette affaire Estelle Mouzin. Un documentaire exceptionnel qui sera diffusé ce soir à partir de 21h sur W9.
L'Élysée aurait-il cédé à l'amicale pression des viticulteurs? Il était question d'organiser en janvier un mois sans alcool sur le modèle du Dry January anglais. On comprend aujourd'hui que cela n'aura pas lieu et on croit comprendre aussi, Pauline de Saint-Rémy, qu'Emmanuel Macron a mis son veto.
Et oui, alors, pas officiellement, évidemment, officiellement, la proposition n'a même pas été sur le bureau de la ministre de la Santé, encore moins donc sur celui d'Emmanuel Macron. Sauf que hors micro, l'entourage du chef de l'État ne se prive pas de faire savoir qu'il n'est, je cite, pas convaincu de la pertinence de cette forme de campagne de prévention. Ce à quoi il faut ajouter que la semaine dernière, le chef de l'État a rencontré discrètement des représentants de la filière champagne et qu'il leur a glissé, hors micro là encore, que le mois sans alcool n'aurait pas lieu. Bref, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui avait fait parler d'elle, souvenez-vous, en interdisant la consommation d'alcool dans son ministère. Elle a des convictions très fortes en la matière, il faut le dire. S'en est sortie ce matin en assurant que plusieurs campagnes de prévention devaient lui être présentées, mais d'ici au mois de février seulement. Ce n'est pas la première bisbille au sein de l'exécutif sur ce sujet. Il y a un an, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et Agnès Buzyn s'étaient affrontés par médias interposés sur les dangers du vin pour la santé. Pour mémoire, la filière du vin représente 500 000 emplois en France.
Merci Pauline de Saint-Rémy. À l'étranger, sachez que Benjamin Netanyahou est mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Le Premier ministre israélien est mis en cause dans plusieurs affaires. On lui reproche notamment des échanges de bons procédés avec le patron d'une société de télécom.
On va maintenant à Madrid pour la Coupe Davis. Et bah c'est déjà fini, c'est déjà cuit pour les Français.
Oui, les Bleus sont éliminés après leur défaite face à la Serbie. Tsonga et Benoît Paire ont perdu les deux simples. Le double Mahut-Herbert a sauvé l'honneur. Mais bon, c'est quand même une sortie par la petite porte, Isabelle Langer.
Ah oui, grosse déconvenue et énorme déception pour les Bleus qui sortent par la petite porte de cette nouvelle formule de la Coupe Davis. Pourtant, la Fédération française avait rameuté les troupes aujourd'hui, donné des billets à 100 jeunes du lycée français de Madrid pour jouer les supporters, mais cela n'a pas suffi. À l'instar de Gaël Monfils mardi, Joe Wilfried Tsonga est passé à côté de son match contre Krajinovic ce matin. Pas assez mobile sur le court, il n'est jamais parvenu à bousculer le Serbe qui s'est facilement imposé en 2-7. Dès lors, la messe était presque dite, car il fallait un miracle pour battre Novak Djokovic et malgré sa bonne volonté, eh bien Benoît Paire qui remplaçait mon fils n'a pas trouvé la solution face au numéro 2 mondial. Alors cette défaite condamne l'équipe de France à disputer un match de qualification pour espérer revenir à Madrid dans un an pour cette phase finale. Ce sera comme au bon vieux temps, sur deux jours, vendredi 7 et samedi 8 mars, contre un adversaire qui sera connu dimanche, à moins que la France ne reçoive une invitation de la part des organisateurs. En attendant, les joueurs tricolores ne repartent pas de la capitale espagnole les mains vides, mais avec un joli chèque de 100 000 euros chacun. C'est quand même un peu Noël avant l'heure.
Voilà, ouais. Pas de saladier, mais un chèque.
Un chèque pour deux défaites, hein, c'est cher payé. Merci beaucoup, Isabelle.
RTL Soir, 18h15.
Un mois sans alcool, mais aussi sans gouvernement, qui ne participera donc pas au January Dry. On en parlait à l'instant, ça énerve beaucoup le professeur Reynaud, le président du fonds Action Addiction. Il est l'invité d'RTL Soir dans quelques secondes.
Et pour l'interroger, appelez-nous au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.